Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui, la Fédération française de l'ordre maçonnique mixte international, le droit humain. Bonjour à tous, Sylvie Tardif, conseillère nationale de la Fédération française du droit humain. Nous recevons aujourd'hui Philippe Aubry, second vice-président de la Fédération française, en charge des relations avec les instances européennes, et Josette Breuil, responsable de la Commission Europe de la Fédération française du droit humain. Et vous l'aurez compris, le thème de cette émission sera l'action du droit humain dans les instances européennes. Je laisse la parole à notre journaliste, Marc de Souter, pour animer cette émission combien d'actualité.
Bonjour à tous. Josette Breuil, bonjour.
Bonjour.
Philippe Aubry, bonjour.
Bonjour.
On commence avec vous, Josette. Vous rappeliez sur cette antenne il y a moins d'un an que le droit humain était présent dans 21 pays de l'Union européenne, ce qui confère à l'ordre une vraie légitimité pour éclairer les instances européennes et formuler conseils et propositions. Nous parlerons de l'actualité avec vous, Philippe, et vous, Josette, notamment le Brexit, mais il faut sans doute déjà reconnaître une évidence, l'Europe ne fait plus rêver et les Européens ne la comprennent plus. Il faut, selon vous, revenir aux fondamentaux ?
Effectivement, on a perdu de vue les valeurs universelles qui ont présidé à la construction européenne. Il est indispensable d'y revenir. Ce sont la dignité humaine, la liberté, l'égalité, la solidarité, l'affirmation du principe de démocratie. Il faut rappeler aussi que dans son acte fondateur, l'Union européenne place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. Tout ceci a levé des espoirs immenses qui aujourd'hui sont déçus. Et nous, francs-maçons du droit humain, nous partageons ces valeurs et ces droits. Nous travaillons au progrès de l'humanité. Par conséquent, nous ne pouvons demeurer insensibles au risque de perte de ses acquis et de la déshérence de ses valeurs.
Alors ces valeurs, elles sont gravées dans le texte de la Constitution internationale du droit humain. Pouvez-vous nous rappeler en quels termes ?
Oui, je cite, « Les membres de l'ordre maçonnique mixte international le droit humain, fidèles au principe de laïcité, respectueux de la liberté absolue de conscience, travaillent à concrétiser les principes de liberté, d'égalité et de fraternité. » Alors, ces principes sous-tendent des valeurs, telles que la solidarité, la justice sociale, le respect de la dignité humaine. Le principe d'égalité trouve un écho dans l'égalité homme-femme, un combat pour lequel le droit humain a été fondé à la fin du XIXe siècle.
Vous pensez, Philippe Aubry, que ces valeurs sont aujourd'hui menacées, que le récent Brexit est une alerte suffisamment grave ?
Hélas, oui. Car si vous observez bien les termes de la campagne autour du Brexit, ils ont mis en avant la peur de l'autre avec l'immigration, le nationalisme, etc. Bref, tout ce qui est du repli sur soi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à trop vouloir faire un marché unique, l'Europe s'est contentée de son unité marchande et financière, sans se doter parallèlement du nécessaire à assurer le bien-être de ses habitants. L'Europe a oublié les peuples, notamment ceux dont les moyens d'existence et le niveau d'éducation sont faibles, ce qui favorise la montée des populismes.
Néanmoins, au droit humain, considérez-vous qu'il faut rester optimiste ?
Cette sortie de l'Europe de la part du Royaume-Uni représente une opportunité, une occasion de relancer l'Union européenne, en donnant plus de pouvoir au Parlement, donc avec une plus grande place à la démocratie, en s'accordant ne serait-ce qu'à quelques pays sur de grands projets communs, tout en respectant les États comme vient de le déclarer à Bruxelles notre grand maître, la sœur Yvette Rameau. C'est-à-dire en allant dans le sens d'une plus grande justice sociale, dans le sens du respect des droits de l'homme et du maintien d'un espace de paix. En avançant de manière concertée sur l'harmonisation sociale et fiscale entre les États membres, sur la promotion de l'égalité homme-femme et en développant le principe de laïcité ou liberté de conscience si vous préférez.
Puisque l'on parle du Royaume-Uni, Josette Breuil, combien de loges le droit humain y compte-t-il ?
Alors, le droit humain compte 16 loges à Londres, dans quelques autres villes et également en Irlande du Nord.
Alors ce chantier de la permanent de la construction européenne. Le droit humain y participe et a mis en place à cet effet des outils dès 2009 avec notamment une commission Europe au sein de la Fédération française. Pouvez-vous nous en rappeler la mission ?
Alors, cette commission a été confortée et consolidée en 2015-2016 sous l'impulsion du grand maître national Madeleine Postal. Des frères et des sœurs, spécialistes des questions européennes, renforcent l'équipe des conseillers nationaux. Et c'est cette commission travaille auprès du Conseil national de la Fédération française du droit humain. Elle exerce une veille sur ce qui se passe au niveau européen, dans les instances dirigeantes que sont le Conseil, la Commission et le Parlement, afin d'alerter le grand maître national. Et sur la proposition de cette commission, le Conseil national prend des positions, publie des communiqués lorsque les valeurs que nous défendons sont menacées ou lorsque des avancées importantes sont obtenues.
Alors des positions, des communiqués, mais sur quels objectifs travaille actuellement cette commission ?
Actuellement, la Commission Europe travaille sur plusieurs thèmes en phase avec l'actualité européenne. La question des migrations et des réfugiés en Europe, c'est d'ailleurs le thème de la question sociale de l'année débattue dans toutes les loges du droit humain. Elle travaille aussi sur des moyens de prévention de la radicalisation pour des sociétés démocratiques et enfin sur la réduction des inégalités chez les jeunes dès l'école. Et ces thèmes s'inscrivent pleinement dans l'article 3 de la Constitution internationale que nous venons de rappeler.
Philippe Aubry, cette question des migrations dont vient de nous parler Josette Breuil, cette question était le thème même de votre rencontre à Bruxelles à la fin du mois dernier.
Effectivement, M. Frans Timmermans, le premier vice-président de la Commission européenne, nous a reçus le 30 juin à Bruxelles, dans les locaux de la Commission, pour un dialogue sur le thème « Migration, intégration et valeurs européennes, mettre nos valeurs en acte ».
Le fait que vous soyez reçu et entendu par le premier vice-président de la Commission européenne n'est pas une politesse de convenance, j'imagine ?
Certainement pas. Je rappelle à nos auditeurs que l'article 17 du traité de Lisbonne fait obligation aux trois grandes instances de l'Union, que sont la Commission, le Parlement et le Conseil, d'entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier, c'est le texte même du traité, avec les organisations confessionnelles, non confessionnelles et philosophiques. Nous avons deux réunions par an, en juin et en novembre, avec les instances européennes. Elles sont une opportunité offerte à la franc-maçonnerie et singulièrement aux droits humains pour défendre les principes et les valeurs humanistes qui nous sont chères. Il est important, très important ce dialogue, en ce qui concerne la laïcité, la liberté de conscience et l'égalité homme-femme.
Alors justement, puisque nous en parlions tout à l'heure, qu'est-il ressorti plus précisément de cette réunion de juin concernant la question des migrations et de l'intégration ?
Nous avons avancé l'idée que sur ces problèmes, il y a une thématique plus globale, qui est la thématique de l'éducation et concomitamment de l'inclusion. Nous avons dégagé trois pistes qui nous semblent fécondes. L'éducation apparaît comme une donnée centrale à des actions prioritaires à mettre en œuvre. Certes, cela ne relève pas de la compétence de la Commission européenne, mais on n'hésite pas à demander une évolution sur ce sujet. Les enjeux sont de taille. La citoyenneté européenne, la connaissance de l'histoire européenne par tous les peuples d'Europe. Autre piste, la formation professionnelle. Y compris la formation professionnelle des enseignants et des politiques. Tout cela est à revoir. De gros efforts sont à envisager dans tous les États membres sur ce sujet. Troisième piste, l'éducation permanente. Elle a été négligée quand elle n'est même pas tombée en désuétude parfois. Il convient de lui donner ou de lui redonner une vigueur constante dans toute l'Union européenne, à l'image de ce qui se fait encore, heureusement, dans certaines associations comme en France, la Ligue de l'enseignement qui vient de fêter son centenaire.
Quand on évoque l'éducation et la formation, Josette Breuil, on touche aussi directement les jeunes. L'Europe de demain, c'est eux qui vont la construire. C'est la raison pour laquelle le droit humain fait des jeunes son objectif prioritaire ?
Effectivement, nous devons défendre nos valeurs à l'égard des jeunes et contribuer à ce qu'une conscience de citoyenneté européenne émerge parmi eux. Au-delà de leur appartenance nationale, il est essentiel qu'ils se sentent européens. Les francs-maçons du droit humain sont présents dans de nombreux pays en Europe. Ils peuvent donc promouvoir et favoriser la diffusion d'une culture et d'une éducation européenne afin de réconcilier les jeunes européens et l'Europe. Ils peuvent expliquer l'intérêt d'être européen aujourd'hui et pour demain. faire comprendre que nous devons avoir une communauté de destin, car l'avenir nous l'impose, et que les défis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas être résolus au niveau des États. Il est en effet essentiel, comme vient de le souligner Philippe, d'orienter les jeunes Européens vers des formations qualifiantes en termes d'employabilité. Il faut leur redonner de l'espoir et de la confiance en l'avenir.
J'ai noté d'ailleurs que le droit humain participait début juin à une discussion qui avait pour thème « Comment nos valeurs, celles de l'Europe bien sûr, comment nos valeurs peuvent réenchanter la jeunesse européenne ?»
Oui, nous avions un représentant de la Fédération portugaise du droit humain qui participait à ces travaux au sein de COMALAS. Alors, ce sigle signifie « Contribution des obédiences adogmatiques et libérales à la construction européenne ». Ce groupe est composé d'une trentaine de frères et de sœurs appartenant à 17 obédiences maçonniques européennes, ainsi que des obédiences du Liban et de la Turquie. Nous produisons des documents et des réflexions qui sont présentés à la Commission européenne chaque année. Je précise que cette année, c'est le thème proposé par le droit humain qui a été retenu. Il s'intitule « Vers une nouvelle gouvernance européenne ».
Un rapport qui sera présenté, je crois, en fin d'année à la Commission européenne. Philippe Aubry, la résurgence en Europe du poids des religions dans la sphère publique européenne vous a amené au niveau du droit humain à réagir récemment.
Oui, les rencontres de juin avec la Commission européenne ont clairement démontré que l'action des religions atteigne leurs limites face aux difficultés rencontrées. La crise provoquée par l'arrivée massive de migrants issus de pays où domine une autre religion que celle historiquement installée en Europe, cette crise ouvre un conflit avec les positions des partisans de ces religions classiques. Le vivre ensemble dans l'espace européen doit dépasser ces clivages religieux. La laïcité, ou liberté de conscience, qui est un terme plus facilement traductible dans toutes nos langues, s'impose comme le garant de ce vivre ensemble que tout le monde appelle de ses vœux. L'espace public ne peut pas être administré par des règles religieuses. Il faut offrir aux populations une garantie que la liberté de conscience de chacun ne peut être remise en cause par des opinions ou des actes posés par ceux qui ne pensent pas de la même manière. La laïcité, donc, est plus qu'une notion politique et sociétale. C'est une vertu qui structure nos sociétés.
Défense de la laïcité, donc, sans oublier, Joseph Breuil, celle de la mixité et de l'égalité homme-femme. Pour un ordre comme le droit humain, c'est un combat encore essentiel au sein de l'Europe ?
Absolument, plus que jamais, je dirais. Dans un contexte où l'égalité homme-femme est menacée presque partout en Europe et dans le monde, le droit humain doit exprimer avec force et détermination ses propositions, comme il a su le faire à plusieurs reprises. Alors certes, sous la pression de la société civile, nous pouvons observer quelques timides avancées de la part des instances européennes. Mais un grand travail reste à faire car les résistances sont difficiles à vaincre. Et c'est là un chantier immense pour les francs-maçons du droit humain en Europe s'ils veulent contribuer à bâtir une société qui est celle du vivre tous ensemble, vivre dans le respect de la dignité de la personne et de sa différence, reconnaître l'autre dans sa liberté et dans ses droits.
Philippe Aubry, quand on évoque les préoccupations européennes du moment, on garde à l'esprit ces images tragiques qui nous parviennent quotidiennement, celles des migrants qui périssent aux portes de l'Europe. Là, on parle vraiment de droits humains au sens propre du terme. Et votre ordre s'est aussi emparé de cette problématique pour faire valoir les propositions auprès de la Commission européenne.
Oui, nous en sommes emparés avec d'autres. Nous travaillons avec 38 obédiences au sein de l'Alliance maçonnique européenne. Et pour la réunion du 1er juin, la Fédération française du droit humain a présenté des propositions concrètes que l'Alliance maçonnique européenne a fait sienne sur la question des conditions d'accueil des réfugiés. Par exemple, à court terme, nous estimons qu'il faut dénoncer l'instrumentalisation des questions migratoires, qu'il faut dénoncer le dévoiement des mots, des clichés, qu'il faut mettre en place des lieux d'accueil suffisants, mais en évitant d'effectuer des regroupements qui ressembleraient à des ghettos. Il faut installer les migrants sur tous les territoires pour favoriser la connaissance du pays de l'intérieur et faire en sorte que les autochtones touchent du doigt la réalité de l'immigration. Il faut dénoncer et sévir contre la xénophobie et le racisme avec les lois existantes. Et il faut développer aussi l'accompagnement des immigrés dans leur démarche et leur enseigner la langue et la culture du pays d'accueil dans le respect des valeurs démocratiques.
José de Breuil, on voit à travers ces différentes actions qui ont été développées au cours de ce propos que le droit humain justifie complètement sa dimension internationale.
En effet, le droit humain se doit de s'intéresser à toutes ces grandes questions car elles correspondent à sa philosophie. Elles impliquent la défense des valeurs dont il est porteur. Elles concernent les droits fondamentaux sur lesquels l'Union européenne elle-même s'est construite et s'est engagée à les garantir. Et c'est d'autant plus important que l'Europe vacille sur ses fondations, sur ce qui a fait sa force, son unité, sa raison d'être. Il est essentiel de préserver la pensée laïque, les droits humains, les idées de liberté et de démocratie.
Liberté, démocratie, deux très jolis mots pour terminer ce propos, et ce sont les mots de la fin. C'est à vous, Sylvie, pour la conclusion. C'est la dernière conclusion, car je sais que vous quittez l'émission après 3 ans de bons et loyaux services. En tout cas, je vous remercie au nom de tous les intervenants pour l'aide efficace que vous nous avez apportée pour la préparation de ces émissions.
Merci beaucoup, ça me touche vraiment. Et il est vrai qu'il faut le rappeler, en franc-maçonnerie, aucun poste n'est un poste à vie. Que le principe de l'alternance et justement de la descente de charge est fondamental pour bien comprendre quelle doit être notre place à chacun. Je vous remercie tous les trois et notre prochaine intervention sur France Culture, qui bien sûr aura lieu le dimanche 30 octobre avec mon successeur, et nous recevrons également notre nouveau grand maître national qui sera élu à l'issue de l'Assemblée Générale fin août. Nous ouvrons nos temples les 17 et 18 septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine, dont le thème cette année est en adéquation avec nos préoccupations de francs-maçons, comme vous avez pu l'entendre dans l'émission d'aujourd'hui, patrimoine et citoyenneté. Notre première conférence de l'année mettra un point d'orgue à nos émissions de cette année, Droit de l'enfant, droit humain, le samedi 15 octobre à 14h, rue Pinel. Toutes ces informations et d'autres encore sur notre site droithumain-france.org. Et vous pouvez également nous suivre sur Facebook pour être tenu informé de notre actualité. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site et sur celui de France Culture, nous écrire à Droit Humain, 9 rue Pinel, 75 013 Paris, ou par mail contact@apfdh.org. Nous assistait pour la réalisation de cette émission Dany Journeau et Jean-Guillaume Meige pour la partie technique. Merci à tous et passez un bel été.